Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Poursuivons ensemble, chaque jour, cette anthologie des lettres des pères du désert. Nous avons depuis quelques mois longuement partagé ainsi avec vous les pensées et les expériences de quelques-uns de ces véritables athlètes du Christ. Antoine du désert, Jean Macaire, Climac, Silouane, Séraphime de Sarov et quelques autres. Aujourd'hui, pour plusieurs jours, nous entrons dans l'œuvre de Jean Cassien, qui naquit probablement en City en 365 et concentra plus particulièrement son enseignement aux moines sur le combat spirituel. Aujourd'hui, nous commençons les conférences de Jean Cassien. Il nous parlera d'abord de l'humilité et de la charité.
Nous devons nous stimuler plutôt par l'appétit de la vertu et le désir du royaume des cieux, plutôt que par le souvenir funeste de nos vices.
Voici ce que nous dit ce saint à propos de l'humilité. De l'humilité naît une autre vertu, bien monastique aussi, la patience. Les moines des premiers âges déployaient sur ce point un héroïsme que nous avons oublié. Les conférences en montrent maints exemples. Le champ de cette tranquillité ferme et douce est immense. Ce n'est pas seulement à l'endroit du prochain qu'elle trouve à s'exercer, mais aussi parmi les épreuves que la main du Seigneur nous inflige, à dessein de guérir notre orgueil ou d'effacer en nous jusqu'à la moindre tâche. Et faut-il le dire, parmi les joies mêmes et les faveurs divines, car elles se retrouvent en quelque sorte dans la constance qui rend le juste maître de soi et doucement tranquille, au milieu même des vapeurs enivrantes du succès et de la prospérité spirituelle. Dès lors, loin de ressembler à la cire molle qui cède toujours au sceau qu'on lui imprime, il est devenu lui-même comme un cachet de diamants. Et son âme, gardant inviolablement sa physionomie propre, marque et transforme les événements divers de sa vie à l'image de ce qu'elle est elle-même. Considérée dans cette plénitude concrète, la patience comprend la douceur et la tranquillité de la paix. Elle marque le triomphe définitif sur tous les vices. La paix est un acte éminent de la vertu de charité. À ce degré, elle en signifie la souveraineté. La charité n'a rien d'un vague sentiment qui se résorberait soudain au contact des réalités. C'est la reine des vertus. On ne la voit jamais que dans ce cortège royal. C'est pourquoi elle est la perfection, le bien immuable et perpétuel, sans exception de temps, le but à quoi tout se subordonne et sur lequel tout se mesure. Elle correspond à la pureté du cœur, et celle-ci va avec la paix ou la tranquillité. Ce sont là les trois aspects divers d'une même réalité concrète. La charité y tient le rôle de cause. Tout l'édifice des vertus n'a qu'un but, qui est d'atteindre à la perfection de la prière. Mais sans ce couronnement, qui en assemble les diverses parties, de manière à en former un tout qui se tienne, il n'aura ni solidité ni durée. Sans les vertus, ni ne s'acquiert, ni ne se consomme la constante tranquillité de prière dont nous parlons. Mais en revanche, les vertus qui lui servent d'assises n'arriveront pas sans elles à leur perfection. C'est en vain que l'on tend à voir Dieu si l'on évite la contagion des vices. Après avoir banni tous les soins et les pensées terrestres, efforcez-vous de toute manière de vous appliquer assidûment, que dis-je, constamment, à la lecture sacrée. Tant que cette méditation continuelle imprègne enfin votre âme et la forme, pour ainsi dire, à son image, elle en fera de quelque façon l'arche de l'Alliance, renfermant en soi les deux tables de pierre, c'est-à-dire l'éternelle fermeté de l'un et l'autre testament. L'urne d'or, symbole d'une mémoire pure et sans tache, qui conserve à jamais le trésor caché de la manne, entendez l'éternelle et céleste douceur des pensées spirituelles et du pain des anges. La verge d'Aaron, c'est-à-dire l'étendard, signe du salut de notre souverain et véritable pontife, Jésus-Christ, toujours verdoyant, dans un immortel souvenir. Il est impossible de mépriser les plaisirs de la bouche si l'âme, attachée à la contemplation de Dieu, ne trouve de plus grandes délices dans l'amour des vertus et la beauté des choses célestes. L'heure où l'on dédaigne comme caduque toutes les choses présentes est aussi celle où le regard de l'esprit est inséparablement fixé sur les immuables et éternels. C'est par suite du côté de la vertu et non du vice que le moine portera son attention. Nous devons nous exciter à une louable componction, plutôt par l'appétit de la vertu et le désir du royaume des cieux que par le souvenir funeste des vices. Désertant toute pensée mauvaise et plus encore toute pensée terrestre, il faut élever toujours l'attention de notre âme aux choses célestes. Par-dessus tout, il dirigera son cœur vers Dieu lui-même et Dieu seul, dans un regard qui se fera de plus en plus simple et direct. Tellement que ce sera à ses yeux une impureté que tout écart loin de la contemplation de Christ. Une perte sans compensation est la seule qui compte. Quel plus grave dommage peut-il advenir à l'âme que d'être privé par l'aveuglement où son trouble la jette, de la clarté de la vraie lumière éternelle, et de se retirer de la contemplation de celui qui est doux et humble de cœur. Un vrai moine ne peut supporter les ténèbres, si fugitives soient-elles, des pensées charnelles, et déteste tout ce qui retire son esprit de la vue de la gloire divine et de la vraie lumière, parce qu'il sait que le souvenir de Dieu ou la charité est la clé de voûte de l'édifice qu'il se propose d'élever, le point central duquel tout dépend, et qu'il ne prétend s'élever à la charité parfaite que par l'exercice de la charité elle-même, source des vertus. Ainsi, la contemplation est à la fois le moyen et la faim. La contemplation laborieuse mène à la contemplation toute simple, tranquille, inondante. Le moine s'attache à Dieu de toutes ses énergies et cherche avidement sa lumière afin de mériter d'en recevoir un jour l'abondance. Celle-ci lui sera donnée sur les cimes du troisième renoncement où toute perfection est renfermée.
Quando è l'uverno ten lo nostro gompa, li giricheranno a spinghe nostra umanità. E quando dalla triscemmi venera una picchia, che li saranno tristi nostri corri o ma. Quando li giveranno una miseria un più, che naveremo male ai nostri vivi. A tutte l'ore valle che tu aspetti tu, chi uge lo goro su piangherà di nu. Madre universale ci verrà conta che noi saremo pronti insieme a perdonare, che Monte Cinto Viero ci accompagnerà. Noi, noi come un cielo chiaro, quando è l'uverra dolce pur d'orno amaro. Noi, noi d'un saluto teneremo caro. Noi, 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 sì. Noi tutti qui. Noi, noi, come un cielo chiaro. Noi, noi, ci teneremo caro.
Ce que l'on peut dire de l'amour et de l'impassibilité.
C'est bien le propre de l'amour parfait ou de l'acte complet de la volonté d'être une adaptation totale de cette puissance et par elle du sujet lui-même à l'objet aimé, un don de la personne à la personne, une sortie de soi afin de revêtir l'aimé. Et lorsqu'il est réciproque, il y a pénétration et inhabitation mutuelle et mutuelle appartenance, une sorte de fusion qui respecte pourtant la dualité. Autrement, on ne s'aimerait pas. Mais en vertu de laquelle, l'aimant se voit et vit dans l'aimé comme dans un autre lui-même et l'aimé dans l'aimant. Si de telles amitiés se rencontrèrent jamais ailleurs que dans les ouvrages des poètes, on en pourrait douter. Plus belle que tous les rêves humains et réalité vivante, l'amitié surnaturelle de la charité, nous met vraiment en Dieu et Dieu en nous. Et lorsqu'elle est souveraine, la compénétration est parfaite. Comme le dit Jean de la Croix, alors nous verrons le plein accomplissement de la prière que notre Sauveur fit à son Père pour ses disciples, afin que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux et eux en nous, afin que tous soient un, comme vous, Père, êtes en moi et moi en vous, afin que eux aussi soient un en nous. La parfaite tranquillité de l'âme, se conçoit-elle sans le parfait silence des passions, sans une pureté limpide? Et la charité pourrait-elle être souveraine sans la perfection de toutes les vertus, qui sont ses membres, sans l'extinction des vices, par conséquent, et la victoire sur les passions? Déjà, Clément d'Alexandrie en parle. Il parle de l'apatheia, c'est-à-dire le silence des appétits sensibles, ou plus précisément encore, l'absence de tout mouvement désordonné de la partie inférieure, ce qu'on appelle donc l'impassibilité. Cependant, contrairement à ce que dit Épictète ou Marc Aurèle, ce serait déflorer la nature de ce qu'elle possède de plus précieux et de plus délicat que de lui interdire de s'émouvoir sur la mort d'un être justement cher. Cette illusion de prétendre s'enfermer, impassible, dans une tour d'ivoire. La sensibilité n'a besoin que d'être réglée. Elle ne doit ni ne peut être supprimée. On peut dire également « heure bénie » où la chair cesse de convoiter contre l'esprit pour consentir à ses désirs et communier à sa vertu. Le moine commence d'y prendre ses délices comme dans une demeure très pure, et la suave lumière de la chasteté, le comblant de continuelles délices, il éprouve ce que disait le prophète, « La nuit même est devenue lumineuse au milieu des ténèbres où je suis ».
Una carezza è morta e balla un temporale. Chiudiamo la nostra porta, core, core, un male.
Stasera, mio figliolo, faccio freddo fuori. Stasera, mio figliolo, ci nemo già buon'ora.
Domani è vera giorno e puoi rimanda. A dicerai tu a strada io campa.
Ma sai, in casa nostra c'è tante cose a fa. Domani è vera giorno, lasciami sonia. Stasera un mio figliolo faccio freddo fuori. Stasera un mio figliolo ci nemo già buon'ora.
In occhi verano non ci ha abbandonato, volterà piano piano anche lui si è calato.
No, chi ha speranza? Non ci ha mica lasciato. Dalli pazienza. Anch'ella è tribulata.
Domani in casa nostra c'è tante cose a fa. La dicerai tu. La voglia di campà.
Stasera un mio tesoro. Faccio un freddo fuori. Stasera un mio tesoro. Ci nemmo già buon'ora.
Une petite définition de la prière parfaite. La prière n'est point parfaite si le moine a conscience de soi et connaît qu'il prie. Et maintenant, à propos de la pureté du cœur. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Quant à notre but, c'est la pureté du cœur. Par lui, c'est justement nommé la sainteté et sans laquelle on ne saurait atteindre cette fin. C'est-à-dire, en d'autres termes, votre but consiste en la pureté du cœur et vous avez pour fin la vie éternelle. Parlant ailleurs de ce but, le bienheureux apôtre emploie le terme même d'une façon fort significative. Oubliant ce qui est derrière moi, je me porte de tout moi-même en avant et cours droit au but vers la récompense à laquelle le Seigneur m'a appelé d'en haut. Je cours en me guidant sur le but. C'est en poursuivant ce but d'oublier ce qui est en arrière, c'est-à-dire les vices du vieil homme, que je m'efforce de parvenir à ma fin, qui est la céleste récompense. Embrassons donc de toute notre énergie ce qui peut nous acheminer au but de la pureté du cœur. Évitons au contraire, comme funeste et malfaisant, ce qui nous en écarterait. N'est-elle pas la raison de tous nos actes et de notre patience à tout supporter pour elle, pour la garder à jamais, parents, patrie, honneur, richesse, délices du monde, plaisir quel qu'il soit, tout nous est à mépris. Si nous nous proposons ce but, toujours nos actes et nos pensées iront droit à l'obtenir. Mais si nous oublions ce but, nous verrons surgir en nous tout un monde de pensées les plus diverses et contraires les unes aux autres, car il est fatal que l'âme, qui n'a pas où revenir et se fixer de préférence, change à toute heure, à tout moment, au gré des pensées qui la traversent. Jouet des influences du dehors, elle appartient aussitôt à la première impression qui se rencontre. De là vient que plusieurs qui avaient méprisé des fortunes considérables, des sommes énormes d'or et d'argent et domaines magnifiques, se sont laissés, par après, émouvoir pour un grattoir, pour un poinçon, pour une aiguille, pour un roseau à écrire. S'ils eussent regardé constamment à la pureté du cœur, jamais ils ne seraient tombés pour des bagatelles. Après avoir préféré se dépouiller de biens considérables et précieux, plutôt que d'y trouver le sujet de fautes toutes semblables. Il s'en trouve qu'ils sont jaloux d'un manuscrit qu'ils ne sauraient souffrir qu'un autre. Ils jettent seulement les yeux où ils portent la main. Et cette rencontre, qui les invitait à gagner en récompense douceur et charité, leur devient une occasion d'impatience et de mort. Après avoir distribué toute leur richesse pour l'amour du Christ, ils retiennent leur ancienne passion et la mettent à des futilités, prompts pour les défendre à la colère. N'ayant pas la charité dont parle saint Paul, thank you. évidente que l'on ne touche pas tout d'un coup à la perfection par la seule nudité, le renoncement à toute richesse et le mépris des honneurs, si l'on y joint cette charité dont l'apôtre décrit les membres divers. Or, elle n'est que dans la pureté du cœur. Car ne connaître ni l'envie, ni l'enflure, ni la colère, n'agir point par frivolité, ne pas chercher son intérêt propre, ne pas prendre plaisir à l'injustice, ne tenir point compte du mal, elle reste. Qu'est-ce autre chose qu'offrir continuellement à Dieu un cœur parfait et très pur, et le garder intact à tout mouvement de passion? On gagne moins par un jeûne que l'on ne perd par un mouvement de colère. Et le profit que l'on retirerait de la lecture n'égale pas le dommage encouru pour le mépris d'un frère. À notre prochain rendez-vous, nous poursuivrons avec Jean Cassien. Il nous parlera du royaume de Dieu. Il nous parlera également des pensées élevées.